Les nuits de France Culture.
La philosophie s'empare de tout. Elle prend tous les éléments du réel, de la culture, des religions, de la nature, et y applique une infinité de grilles de lecture. Certains parleront d'intellectualisation à outrance, de tyrannie de la rationalité. D'autres y verront, comme Deleuze, une activité dont l'essence même repose sur la création de concepts. Il y a pourtant des objets, des sujets sur lesquels la philosophie semble achoper. La mort, par exemple, est un objet complètement insaisissable, qui ne peut être défini que négativement, comme la disparition absolue, comme l'écrit Bataille dans Le Coupable. La mort est une disparition. C'est une suppression si parfaite qu'au sommet, le plein silence en est la vérité, tant qu'il est impossible d'en parler. Ici, le silence que j'appelle, évidemment, n'est approché que du dehors, de loin. Un autre de ces objets problématiques est ce que l'on appelle parfois la fin des temps. Difficile sans verser dans la spéculation et des théories de l'histoire un peu spécieuses, de construire un solide schéma philosophique autour de quelque chose d'aussi massif et d'aussi vague. Ce numéro, particulièrement eschatologique de Thèmes et controverses de Pierre Cipriot, revient justement sur les problèmes philosophiques que comporte la fin des temps, avec le philosophe Gabriel Marcel, l'écrivain Jean Rouneau et le théologien Adalbert Gauthier Hamann, s'appuyant notamment sur les travaux de Urs von Balthasar et de Joseph Pieper. Une émission diffusée pour la première fois le 24 juin 1955 sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. 16e émission, l'idée de fin des temps à partir des ouvrages de Hans Urs von Balthasar, Théologie de l'histoire, et Joseph Pieper, La fin des temps, avec la participation de Gabriel Marcel de l'Institut, Adalbert Hamann et Jean Rouneau, assistante de production Hélène Delabrusse.
Il y a quelques années, le roman de George Yu, La 25e heure, publié dans la collection Feu croisé, popularisait le thème de l'inespoir, sorte de prophétisme à rebours annonçant pour la civilisation occidentale la fin des temps, l'arrêt de l'espérance à cette heure actuelle, à ce moment exact et ultime que nous vivons. Même la venue d'un messie, ajoutait George Yu, ne peut rien résoudre, et comme l'avait déjà dit Flaubert dans un magnifique texte trop peu connu, si le Christ revenait, d'abord il n'enseignerait rien, car dans cette société bouchée, il ne trouverait pas devant lui le temps qui pourrait permettre à sa vérité de se propager, mais encore il mourrait dans l'instant, banalement coudoyé par l'anonymat humain, rejeté dans une foule incapable de le reconnaître. On peut contester la pensée de George Yu, il est évident qu'elle a fait tache d'huile dans une société fatiguée par la guerre et prompt à trouver des justifications pour un aquabon incurable. Incurable, dis-je, et là encore il faudrait voir les choses d'un peu près, car il n'est pas du tout évident que tout ce qui va mal mène à l'abandon. L'objet propre de l'espérance est un arrangement des choses matérielles, et pour que cet arrangement soit possible, il faut accepter beaucoup de choses qui vont mal pour en modifier quelques-unes. C'est au sein de l'effort que le refus trouve sa vraie nature, et non dans quelques démissions qui nous met hors du monde, hors du rythme de l'histoire, comme le voudrait George Yu. Les vrais réformateurs n'ont jamais été des démissionnaires, mais des héros de la volonté contre les forces extérieures. Au romancier de George Yu, on peut opposer l'amer courage d'un François Mauriac, qui dans son cahier noir en 1940, après avoir cité le mot de Grimm, « La cause du genre humain est désespérée », ajoutait « Proclamons notre foi en cette cause perdue ». Le vieux Goethe, au seuil de son éternité, ne voulait plus donner un regard ni une pensée à la politique de ce monde, à ce qu'il appelait un brouillamini d'erreurs et de violences. Ce brouillamini est notre affaire propre, il nous concerne, et nous serons des lâches si nous cédons à cette autre facilité, celle du détachement. S'il est vrai de dire, comme François Mauriac, que l'homme sain, l'homme vivant, est toujours disposé à garder au fond de son cœur un peu de mouvement pour aller plus loin, on doit ajouter que le monde, notre monde où nous sommes et sur quoi porte cette action, nous paraît souvent menacée. Il suffit d'un tremblement de terre, d'une menace de guerre, d'un nouvel engin de mort sorti des laboratoires d'armement pour que l'heure, sans être la 25e, nous paraisse grave et toutes ces heures qui sont nombreuses où nous nous sentons ainsi le jouet d'une nécessité de nature ou d'une force destructrice nous laissent impuissants et désespérés. Ajoutons à cela les violences d'une presse qui ne ménage pas nos nerfs, le bruit que l'information moderne fait autour de tout événement brutal et destructeur, les systèmes, ou plutôt le refus de système de la plupart des penseurs modernes qui conçoivent la vie comme une aventure où l'homme se conduit par hasard en ne faisant que dominer son hésitation et sa peur, et nous aurons à peu près l'étendue des cercles de destruction qui s'ouvrent chaque jour autour de nous et dont beaucoup d'entre nous sont tentés de suivre la pesanteur, surtout s'ils ont un peu d'imagination, car dans ce genre de péril, prévu plutôt qu'éprouvé, c'est la force d'illusion qui est terrible. On tremble parce qu'on croit y être, et le malheur reflue sur nous, alors qu'un peu de maîtrise suffirait à nous mettre hors du coup. Il y a les puissances de la terre et les pouvoirs destructeurs qu'on leur prête, mais il y a aussi les puissances du ciel pour ceux qui ont la foi, puissances dont l'Évangile nous parle en nous disant qu'elles se mettront en mouvement. On sait que le christianisme a fait irruption dans l'histoire des idées en modifiant complètement les rapports du temps et de l'éternité. Pour les Grecs, atteindre l'éternité, c'était renoncer au temps. Pour les chrétiens, au contraire, le temps n'a jamais été condamné et même ils refusent de le séparer de l'éternité dont le temps est l'opération. Et ce temps est un vrai temps où il se passe quelque chose, une histoire concrète, une suite d'événements exceptionnels, de décisions à travers quoi l'on peut se révolter ou se convertir, perdre sa vie ou la gagner. Et au-delà de l'homme isolé dans l'histoire de l'Église, ces mêmes à-coups se trouvent amplifiés par le récit des événements sacrés. Création, chute, rédemption, annonce prophétique et apocalypse, fin des temps. À travers ces périodes successives, l'homme et le monde vont vers leur destination. À chaque génération, des chances supplémentaires de charité, d'humanité, des liens entre le monde et la parole divine sont possibles, mais aussi, en contrepoint, des risques de péril, des dangers d'imperfection à l'égard de l'absolu que nous cherchons, mais que nous ne possédons pas. De plus, cette idée d'un avenir que nous devons créer par le secours du temps, si elle écarte l'idée d'un lendemain ténébreux où notre vie risque à chaque pas de s'engloutir, fait du monde autre chose qu'un système clos n'ayant ni commencement ni fin. Nous sommes remués, selon cette conception chrétienne, par un dernier désir qui est la valeur absolue, et si cette valeur absolue n'est pas un point où tout le monde s'arrête, elle est au moins un signe d'indivisible unité par quoi nous affirmons notre dépendance à l'égard du principe qui nous a donné la vie et fait agir selon des intentions d'accroissement et d'enrichissement. Depuis quelques années, la philosophie moderne a choisi ce problème du temps et de l'éternité comme l'objet essentiel de sa réflexion et de son anxiété. Qu'est-ce que le temps ? Est-il le lieu de tous les mirages et des créations inachevées ? Y a-t-il un au-delà du temps avec l'espoir d'une résurrection et d'une vérité que l'on pourrait contempler au lieu de la chercher ? Mais cet au-delà du temps existe-t-il au-dehors de notre monde créé comme une puissance absolue qui règle notre durée et l'arrête quand elle veut ? Ou bien s'accomplira-t-il dans l'homme et par l'homme comme la suite grandiose, le dépassement de tout ce que nous avons accompli ? Le principe divin s'enfantant lui-même à travers le périple historique jusqu'au point où l'épreuve ayant assez duré, une sorte de détente, de simplicité et de pauvreté reconquise, nous laisserons le loisir de vivre dans une éternité dont nous n'avons aucune idée. Deux livres récents, auxquels nous allons consacrer cette émission de Thèmes et Controverses, posent ces grands problèmes métaphysiques. « La fin des temps » de Joseph Pieper, publié chez Desclée de Brouwer dans la collection des textes philosophiques, et « La théologie de l'histoire » de Urs von Balthasar, publié chez Plon dans la collection « Credo ». Signalons aussi un chapitre du livre de Paul Ricoeur, « Histoire et vérité », publié aux éditions du Seuil. Il est évident que nous touchons là à des questions quasi surhumaines, mystérieuses, où la question posée reflue sur les données du problème et gêne son expression même, puisqu'il est dans la nature de la prophétie de n'être déchiffrable qu'au fur et à mesure de son accomplissement et de ne l'être que pour celui qui croit, l'issue de l'événement donnant la véritable clé de la prophétie. De plus, ce problème est un de ceux qui heurtent le sens commun, comme on l'a bien vu chez les Juifs de l'Antiquité, qui se montrèrent rebelles vis-à-vis des prédictions messianiques et n'acceptèrent pas l'accomplissement des prophéties, et cela simplement parce que dans l'idée de fin des temps, comme dans l'idée de mort d'ailleurs, il y a au moins en apparence quelque chose qui est au-delà, qui ne nous concerne pas, et si par aventure un esprit vivant se laissait obséder par une telle tragédie, il ne pourrait plus vivre un seul moment. C'est pourquoi Pieper, comme Urs von Balthasar, ont placé le problème sur le terrain de la théologie en interprétant les prophéties concernant la fin de l'histoire. Ainsi, le problème reste sinon mental, puisqu'il concerne les données de la foi, au moins théorique et dirigé vers l'interprétation des textes, avec au fond une volonté d'acceptation qui ne cesse de nous attacher aux tâches présentes, concrètes, même si l'attitude du chrétien en face de l'histoire lui fait attendre une fin historique et catastrophique. De même que le chrétien accepte la mort sans qu'une parole ne s'élève en lui contre la création de Dieu, de même il doit accepter la fin des temps en silence et sans se détourner de sa vie du moment et de son activité historique. Donc, en compagnie de Gabriel Marcel de l'Institut, de Aldaber Amann qui dirige la collection Credo et de Jean Rouneau, directeur littéraire aux éditions Declin-Brauvert, nous allons maintenant présenter les ouvrages de Urs von Balthasar et de Pieper. Urs von Balthasar est très connu dans les pays germaniques, il vit en ce moment en Suisse allemande. Il est connu par une œuvre abondante qui couvre la théologie, la philosophie, l'esthétique. Il a écrit une explication théologique de l'œuvre de Bernanos. Il a donné des traductions littéraires, particulièrement des grandes œuvres catholiques françaises, Claudel, Péguy, Mauriac, Bernanos. Son premier ouvrage publié était une apocalypse de l'âme allemande. Elle a paru en 1939. Il y méditait sur la série des tentatives du surhomme nietzschéen, sur les thèmes prométhéens ou dionysiaques, de la pensée allemande moderne pour les reprendre et les rattacher à travers leur échec même à une activité historique où l'événement de la présence du Christ prend toute son importance. Eh bien, monsieur Gabriel Marcel, trouvez-vous dans ce livre de Urs von Balthasar sur la théologie de l'histoire le point de départ de sa méditation? Trouvez-vous que vraiment ce livre est une réponse au thème nietzschéen, au thème prométhéen de la destruction du monde ou à l'idée du retour éternel?
Je ne suis pas absolument sûr. Je crois que certainement, Urs von Balthasar a profondément réfléchi sur le problème nietzschéen, mais il me semble que dans ce livre, il se rattache plus directement à un certain courant philosophique profond en Allemagne, qui passe en particulier par la dernière philosophie de Schelling, je veux dire par la philosophie de la révélation, peut-être aussi par Bader, qui est en train de ressusciter quelque peu en ce moment.
En somme, il retombe plutôt, enfin il s'inspire plutôt de doctrines qui mettent le temps au premier plan, à l'opposé de la doctrine nietzschéenne qui constamment a essayé d'effacer le temps, et c'est au fond le triomphe et la maîtrise du surhomme sur le temps qui établit toute sa puissance. De votre côté, Jean Rouneau, pouvez-vous nous dire quel a été le contre-coup des événements de l'Allemagne moderne sur la pensée de Urs von Balthasar?
Je crois qu'en effet, que les événements auxquels Balthasar a assisté depuis 1933, notamment le fait du nazisme, le fait du communisme, du totalitarisme d'une façon générale, lui a fait sentir la nécessité d'une réponse chrétienne aux questions que l'époque posait, de là son activité sur des plans très divers, notamment sa mission de fondateur d'instituts séculiers, de là son activité d'éditeur, car il est également propriétaire d'une maison d'édition où il publie de petits livres de théologie qui sont très lus en pays allemand. Et c'est cette nécessité de répondre, hic et nunc, à la lumière de la révélation qui fait que Balthasar est devenu, dans l'ordre théologique, un des créateurs de notre temps et certainement un des théologiens les plus importants de l'Allemagne d'aujourd'hui, avec les frères Rahner, avec un abbé Veltet.
Ce livre, Le temps de l'histoire, projette une lumière sur l'évolution générale, enfin sur la destinée générale de l'humanité, mais aussi sur la manière dont nous devons faire personnellement, intérieurement, un bon usage du temps. Eh bien, tout simplement, pouvez-vous nous dire, M. Gabriel Marcel, dans quel sens nous devons traiter le temps selon les préceptes que nous donne Urs von Balthasar? Quel est le bon usage du temps qu'il nous apprend?
Il me semble qu'il met avant tout l'accent sur ce que j'appellerais le devoir de non-anticipation. Et ceci m'a beaucoup intéressé parce que c'est un thème qui m'a toujours personnellement hanté. Il me semble que Urs von Balthasar met en lumière, d'une manière extrêmement féconde et vraie, cette valeur fondamentale de la patience, qui aujourd'hui est presque universellement méconnue, étant donné ce phénomène général d'accélération de l'histoire, qui a été signalé en particulier par Daniel Halévy, et qui prend ici une sorte de valeur, je dirais presque, antichristique. N'est-ce pas ? Pour autant qu'il s'agit en somme d'un effort pour capter le temps, pour s'en emparer comme d'une matière qu'on manipule en quelque sorte à son gré, n'est-ce pas, et selon son rythme propre. Il y a là, semble-t-il, une sorte de méconnaissance profonde de la réalité du temps considérée comme don divin. Mais j'aimerais, je dois dire, savoir ce que le père Hamann pourrait, avec beaucoup plus de compétence, préciser sur ce point.
Il y a une chose qui est frappante, c'est que pour le père Balthazar, il y a en quelque sorte deux époques dans l'histoire du monde, avant le Christ et après le Christ. L'arrivée, la venue du Christ, imposant une sorte de développement tout nouveau à l'histoire et aux hommes, puisque les hommes doivent s'efforcer d'imiter le modèle qui s'est projeté en dehors même de l'histoire pour leur servir d'exemple. Eh bien, vous venez de publier un livre sur le mystère du salut, vous touchez à des questions qui sont à peu près identiques à celles que pose le père Balthazar. Je voudrais vous demander de préciser ce qu'est le sens chrétien de l'histoire et ensuite, comment cette espérance du salut peut rencontrer notre sens de l'histoire, notre sens personnel de l'histoire, notre sens du temps ?
Pour le chrétien, le problème de l'histoire ou du temps reste avant tout un problème de foi. Et c'est pour cela que mon mystère du salut rejoint les données fondamentales de la théologie de l'histoire de Balthazar, en ce fait que le Christ est au centre de l'histoire, c'est lui qui explique l'histoire. Et nous ne comprenons rien à l'histoire si nous ne partons pas de ce rôle capital, fondamental que joue le Christ dans l'histoire. Il explique ce qu'il précède, toutes les prophéties dont il est l'accomplissement, et lui-même est dans sa personne déjà prophétie de la fin du temps, donc tout ce qui le sépare de son retour, comme dit l'Évangile lui-même. C'est ainsi donc que l'histoire totale est comprise dans le Christ. Le Christ est entré dans cette histoire. Il colle à cette histoire du fait de son incarnation réelle, concrète, dont il a accentué le réalisme, dont nous soulignons aussi la valeur humaine. Et en même temps, et parce qu'il a été ainsi fidèle à l'histoire, à partir de sa résurrection, l'histoire elle-même lui est soumise, parce que à partir de sa résurrection, dans ce temps que nous vivons aujourd'hui, dans le temps chrétien, l'histoire désormais est suspendue aux promesses, à la foi, à l'espérance et qu'il nous a données pour la fin du monde.
Oui, parce qu'à partir du moment où il y a un accomplissement général, enfin un sens général de l'histoire, nécessairement il doit y avoir une fin du monde. Mais
parfaitement.
Oui, mais il y a là peut-être un problème se pose. Cette fin du monde, comment peut-on l'envisager dans la perspective générale de la création ? N'est-ce pas au fond absurde brusquement cet arrêt, ce stoppage de quelque chose qui existe, qui ne demande qu'à se développer ? Enfin, c'est aussi absurde que le tombeau.
Je crois qu'il n'y a pas d'explication pour le comment de cette fin du monde. Il y a un acte de foi sur le fait que le monde finira un jour. Et toute la...
Mais au niveau de nos vies précaires, comment devons-nous imaginer cette fin du monde ?
Et je crois que c'est une erreur de
vouloir
imaginer.
Comment devons-nous même l'accepter ? Comment pouvons-nous l'accepter ?
Dans un acte de foi et d'espérance. C'est là que la notion d'espérance rejoint celle de patience dont parlait tout à l'heure M. Gabriel Marcel. Il ne faut pas vouloir aventureusement chercher à anticiper le temps. Il faut le prendre comme un don de Dieu. Lui a été soumis comme le Christ lui-même a été soumis au temps. Le prendre comme une dimension que Dieu met à notre service pour, à l'intérieur de ce temps, réaliser, nous, notre salut, tel que la foi nous le découvre.
En somme, notre mission, c'est de vivre tout en connaissant enfin, cette possibilité d'une fin des temps, de vivre comme si nous devions être éternels, à notre place, à travers
Je
des œuvres concrètes
Saint
que
Jean,
nous obstinons à maintenir dans leur continuité.
Saint Jean dit que le chrétien vit déjà dans l'éternel, parce qu'il est au plan du Christ ressuscité dans la foi et dans l'espérance. La vie éternelle est déjà commencée pour lui, dit Saint Jean.
Alors n'y a-t-il pas un péril grave, à la fois pour la théologie et pour la moralité, et pour la destinée même de l'homme, quand il interprète les signes catastrophiques de son époque en termes de prévision futuriste, en termes d'apocalypse, comme c'est arrivé pendant la dernière guerre en particulier, Gabriel Marcel?
C'est possible, mais d'autre part, j'avoue que je suis très frappé de ce fait qui me paraît absolument caractéristique de l'ère dans laquelle nous sommes, et qui consiste dans la possibilité concrète, réelle, tragique, pour l'homme lui-même de mettre fin, semble-t-il, à son existence, disons si vous voulez, à son aventure terrestre. Il me semble qu'il est impossible, même pour la conscience chrétienne, de se désintéresser de cette possibilité. En somme, il semble bien qu'une certaine puissance ait été conférée à l'homme, dont l'homme a la possibilité de faire cet usage purement destructeur. Et pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de mettre ceci en rapport avec la tentation du Christ, avec la phrase du démon, Eritis, sicut dit. Tout semble se passer comme si l'homme, dans la mesure où il se divinise, si je puis dire, naturellement, c'est-à-dire absolument en dehors de tout rapport au Dieu vrai qui est charité, il avait la possibilité, par là même en quelque sorte, de se détruire totalement. Il y a là une sorte de paradoxe effrayant, et pour moi tout à fait révélateur, et qui a une sorte de valeur apologétique, et qui consiste dans le fait que cette puissance faussement suprême, si je puis dire, que l'homme semble avoir la possibilité de se conférer, en fait, risque d'aboutir à l'anéantissement.
Mais l'opposition néanmoins demeure totale entre ces risques de destruction par le fait même de l'homme et l'Apocalypse telle qu'elle est prédite dans les Écritures. Dans le livre que vous avez publié, Jean Rouneau, chez Des Clés de Prouvaire, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'opposition que Joseph Piper, dans La fin des temps, fait entre la prévision des catastrophes et l'Apocalypse. L'Apocalypse étant une chose complètement imprévisible, au contraire, la catastrophe sur le plan humain étant quelque chose qui a ses origines dans l'histoire, qui apparaît peu à peu, que l'homme donc, par sa raison, simplement, par son énergie, peut s'efforcer de compenser.
Oui, le danger de la catastrophe et le danger même de la tentation, chaque catastrophe est en quelque sorte le résultat d'un de nos péchés. Ce qui m'a frappé chez Piper, et c'est la raison pour laquelle j'ai publié le livre, c'est qu'il nous montre à quel point notre sens de l'histoire est devenu pauvre si saint Thomas voit dans chaque tyran comme une figure de l'Antéchrist. Il a par là même un sens des catastrophes que nous avons perdu.
Oui, pour vous et pour Piper, le sens chrétien de l'histoire, c'est le sens des crises, c'est le sens des conflits possibles, c'est le sens du développement moral de l'histoire, mais aussi ses risques d'échec. C'est une histoire tendue, remplie de heurts et d'oppositions. Tout cela nous engage vers l'examen des doctrines qui sont exactement en rivalité avec cette théologie de l'histoire sur laquelle nous étions partis. Le livre de Piper aboutit au fond à un tableau de l'Apocalypse, nous y reviendrons tout à l'heure, mais ce qu'il faudrait peut-être préciser tout de suite, c'est le rapport qui peut s'établir ou qu'on peut tenter d'établir entre le développement de l'histoire au sens théologique, cette espèce de progrès spirituel menant à une fin, et puis le progrès matérialiste, le progrès spontané et continu de l'humanité tel qu'il s'exprime dans le marxisme. Quelle différence établissez-vous entre ces deux catégories temporelles?
Eh bien, il me semble que l'erreur pour le chrétien, ce serait d'oublier que dans l'histoire, deux réalités jouent, je dirais, côte à côte. D'une part, une présence de Dieu et une liberté de l'homme. Présence de Dieu et qui reste malgré toutes les catastrophes, liberté de l'homme qui aboutit au péché. Par conséquent, ces deux réalités vont créer comme la tension de l'histoire, vont lui donner, je dirais, son dynamisme intérieur d'opposition, de juxtaposition, de lutte, de deux forces.
Trouvez-vous pas qu'il y a surtout dans la théologie l'idée qu'il faut sortir du monde le plus tôt possible? Au fond, c'est une bonne chose d'en sortir. Alors que peut-être dans une laïcisation complète de la notion d'histoire, ce qui sera au contraire prédominant, ce sera l'acquis,
On a trop facilement parlé de l'évasion du monde. Il ne faut pas oublier, par exemple, lorsque les pères du désert sont partis quitter le monde, ce n'est pas pour lâcher le drame de l'histoire, mais pour affronter les démons dans les déserts. Donc c'était un acte de courage.
Monsieur Gabriel Marcel.
J'avoue que je suis surtout très sensible à une sorte d'ambiguïté profonde des données. N'est-ce pas, vous venez de parler du marxisme. Eh bien, il me paraît que, bien sûr, on peut prétendre que le marxisme, par son aspect matérialiste, constitue une sorte de tentation. Mais il est bien évident que c'est tout de même une façon beaucoup trop simple de considérer les choses, et je suis moi-même assez peu marxiste pour te dire d'autant plus à y assister. Il y a tout de même là, en même temps, un souci de justice que nous devons considérer comme justifié. Alors ici, n'est-ce pas, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce soit simplement la liberté de l'homme en tant que pécheresse qui est à l'œuvre? Et puis, je prendrai un autre exemple qui personnellement m'intéresse plus. Je pense à certaines réalisations au plan de la culture, par exemple. Sur le plan esthétique, si vous voulez. Comment les apprécier, n'est-ce pas ? Comment ici faire, si peu que ce soit, ce départ entre la volonté divine et la liberté de l'homme ? Je répète, nous sommes là dans l'ambiguïté, c'est-à-dire que ces valeurs en elles-mêmes nous diront qu'elles sont bonnes, nous dirons en même temps qu'elles ne doivent pas être idolâtrées, que si elles sont idolâtrées, elles peuvent en fin de compte se retourner contre l'essentiel. Mais il me semble que si nous ne posons pas ces deux affirmations, qui d'une certaine manière sont non pas contraires, mais complémentaires, eh bien, nous nous en tenons à une sorte de dogmatisme tout à fait simpliste, et auquel je me refuse, et auquel je suis d'ailleurs persuadé que mes interlocuteurs se refuseraient également.
J'ai parfaitement votre avis, et c'est pour cela d'ailleurs que toute explication de l'histoire est impossible, parce que nous ne sommes pas les juges, le monde n'est pas encore jugé au plan de l'histoire. Le monde sera jugé à la fin de l'histoire. Et ce jugement tient non pas aux hommes, mais tient à Dieu. Et toute anticipation du jugement sur les hommes, individus ou collectifs, serait encore une tentation et encore une forme d'idolâtrie.
Mais ce qui me frappe, c'est au fond alors l'identification complète des deux ou trois notions d'histoire que nous pouvons avoir. Parce que toujours pour ce qui est de la conscience particulière, on en vient à cette idée d'un progrès. Le temps existe, nous devons en profiter, nous devons en faire quelque chose, donc un élément de progrès. Et puisque ce qui distingue la théologie, c'est le mystère des fins, et que ce mystère est un mystère, alors il ne reste plus que la notion de progrès pour tout le monde. Et alors je ne vois pas pourquoi nous, marxistes, activistes ou volontaristes, comme on définit certains clans de philosophiques, théologiens ne sont pas tous d'accord.
Je crois qu'il y a tout de même une différence fondamentale entre le marxisme et le christianisme. Parce que le marxisme croit à un progrès constant, à un progrès définitif, et ne met pas, mais dans des obstacles sociaux, par exemple, les difficultés leurs, ne croit pas au péché individuel intérieur, comme nous croyons. Il ne pense et ne parle que d'un péché social, d'une injustice, du prolétariat, d'une une forme de servitude des minorités, des travailleurs. Alors que...
Il vous semble que la conception chrétienne de l'histoire est plus dramatique que la conception marxiste.
Elle est beaucoup plus profonde, me semble-t-il. Elle touche beaucoup plus intimement le drame de l'homme qui, malgré une béatitude extérieure, un progrès, qui, dans le progrès d'aujourd'hui, comme nous le voyons dans certaines civilisations, ne trouve tout de même pas sa quiétude intérieure, son repos.
Étant donné que vous mettez au premier plan ces crises, ces risques d'échec auxquels l'homme doit faire face, ayant à faire face à ces risques d'échec, pensez-vous qu'il y a encore chez lui une projection qui lui permet d'aller vers une fin des temps, un au-delà des temps, et de poser ce problème de la destruction qui localement déjà l'occupe tout entier? Ne pensez-vous pas que la situation présente est déjà suffisamment embrouillée pour qu'on n'ait pas à la coller l'épithète mystérieuse sur des questions comme celle de fin des temps?
Je crois qu'il est surtout important de donner aux chrétiens, d'une part, le sens qu'il colle au temps, que ce temps est un temps de Dieu qu'il doit exploiter, qui n'a pas le droit de déserter, qui n'a pas le droit de s'évader, qui doit prendre des responsabilités d'ordre professionnel, civique, sociaux, etc. Et d'autre part, que tout en restant dans le temps, en s'incarnant comme le Christ dans le temps, ce temps lui-même, il doit s'en libérer, c'est-à-dire il doit faire cette trajectoire du temps d'aujourd'hui vers son achèvement par un acte d'espérance.
Dans quelle mesure peut-on réconcilier cette histoire humaine livrée à toutes sortes d'à-coups, à toutes sortes d'accros, d'accidents, et l'histoire sacrée que l'histoire humaine contribue à développer? Comment faire la synthèse entre ces deux temps?
Moi, je ne crois pas que nous puissions faire cette synthèse. Il me semble que nous avons à apercevoir que cette synthèse est précisément irréalisable pour l'être que nous sommes, qui est un être itinérant, n'est-ce pas? C'est-à-dire un être engagé précisément dans une durée, n'est-ce pas, et cheminant vers quelque chose dont les personnages ont dit que tout ensemble nous le voyons et nous ne le voyons pas, et qui malgré tout est le salut.
Alors si nous voulons avoir une idée à peu près globale du sens de l'histoire, d'après le père Balthazar, c'est uniquement en méditant l'exemple du Christ que nous pouvons y parvenir, parce que le Christ est devenu ce que nous sommes, et en même temps, le Christ espère que nous allons devenir par la grâce ce qu'il est.
Très justement, et déjà il a réalisé par sa résurrection, donc par ce retour de l'âme et du corps, par ce mariage entre l'âme et le corps, il a déjà réalisé notre condition future. Et nous sommes projetés par l'espérance dans l'attente du jour où non seulement les hommes seront rassemblés, mais le monde tout entier sera clarifié, transfiguré, comme nous l'annonce l'Évangile.
Vous venez d'entendre « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. 16e émission, l'idée de fin des temps, à partir des ouvrages de Hans Urs von Balthasar, théologie de l'histoire, et de Joseph Pipe, la fin des temps, avec la participation de Gabriel Marcel, de l'Institut, Aldabert Hamann et Jean Rouneau. La semaine prochaine, Georges Sand et la musique, avec Pierre Moreau, Thérèse Marix Spire et Georges Pirouet.
C'était un numéro de Thèmes et controverses diffusé pour la première fois le 24 juin 1955 sur la chaîne nationale.